BFM Business présente Good Morning Market.
Financier, c'est sûr, BFM Business. Dans un instant, l'ouverture en Europe. Etienne Brack va peut-être pas refaire la même séance qu'hier. Ça serait pas facile quand même.
Non, les marchés ne peuvent pas gagner 4,5% tous les jours. Hier, c'était vraiment une séance historique. La meilleure séance depuis 2022 pour le CAC 40. Meilleure séance depuis avril dernier pour le Dow Jones, qui a gagné 2,8% à la clôture, grâce notamment à une nette détente des cours du pétrole. Mais les cours du pétrole repartent déjà de l'avant ce matin, puisque vous avez un baril de Brent qui est à 97 $. Nous étions hier dans la nuit à 89 et à 93 $ aux alentours de 9h lors de l'ouverture des marchés européens qui ont été propulsés par les valeurs cycliques, typiquement ArcelorMittal ou encore Safran ont gagné plus de 10% quand le secteur du luxe n'était pas en reste, hein, puisque les LVMH ou encore Hermès ont gagné plus de 7% hier à la clôture. Donc on a vraiment eu un rebond extraordinaire. Reste à voir maintenant comment ça va se passer dans les prochaines heures avec des négociations qui vont se tenir demain entre les États-Unis et l'Iran. Et puis toute la question, c'est le détroit d'Hormuz, bien sûr.
Avec des volumes quand même hier, hein, importants, quasiment deux fois ce qu'on connaît d'habitude.
Oui, 8 milliards d'euros négociés hier soir dans l'indice parisien. Des volumes qui étaient déjà très importants à l'ouverture, en fait. Beaucoup de mouvements se sont faits dès 9h. Et puis après, avec l'arrivée des Américains dans l'après-midi, vous avez une accélération de la tendance, hein, puisque l'indice a gagné plus de 5% en séance.
Avec des taux qui ont perdu quand même 20 points en Europe.
Oui, ça aussi, c'est impressionnant. Avec une séance qui était là aussi historique, hein, sur le marché obligataire. Tout va très vite. On en reparlera d'ailleurs dans l'émission, mais d'un seul coup, hier matin, vous avez eu à nouveau des anticipations de baisse de taux aux États-Unis. Pourquoi pas également des mouvements, mais à la baisse pour la BCE. Bref, le marché va un petit peu dans tous les sens. Et donc, sur le marché obligataire, le 10 ans français qui était à 3,8% en début de semaine est repassé hier à 3,6%. C'est encore le cas ce matin, 3,61, quand le Bund, le 10 ans allemand, est toujours sous les 3% à 2,95. Nette détente également sur les taux courts, même si ce matin, ça se reprend un petit peu, puisque vous avez le 2 ans qui prend 5 points de base à 2,69.
Bon, pour animer les marchés, on aura les résultats trimestriels qui vont arriver à partir du milieu de semaine prochaine.
Oui. En Europe, avec LVMH qui va publier ses ventes lundi soir. Vous aurez ASML qui va publier ses trimestriels mercredi. Et puis en Europe, ça a déjà commencé puisque hier soir, Delta Airlines et Constellation Brands ont publié leurs résultats. Deux sociétés qui ont publié des résultats au-delà des attentes, mais qui ont un petit peu déçu les investisseurs sur les perspectives. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour un directeur financier, pour un directeur général, c'est quand même très compliqué de donner des prévisions sur le trimestre en cours. Et alors sur l'année, c'est encore plus complexe, d'autant plus pour une compagnie aérienne avec la situation au Moyen-Orient, avec les cours du pétrole. Et donc, il faudra suivre ces deux titres tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street.
On suivra Meta, hein, aussi à l'ouverture, oui, à Wall Street. Meta qui annonce un nouveau modèle.
Oui, et le titre qui a largement profité de cette nouvelle hier, puisque Meta a gagné près de 7%. Nouveau modèle d'intelligence artificielle qui va faire son arrivée dans les prochaines semaines sur les réseaux sociaux de Meta. Une course contre la montre, hein, pour tous les acteurs, que ce soit Anthropic en début de semaine qui dit on va faire plus de chiffre d'affaires que OpenAI, Microsoft qui perd 30% en bourse avec OpenAI, la directrice financière d'OpenAI qui n'exclut pas une rentrée en bourse, et une entrée en bourse qui pourrait se faire au second semestre avec une part dédiée pour le retail de l'ordre de 30%, un petit peu comme du côté d'Elon Musk, hein, qui va faire entrer en bourse SpaceX au mois de juin.
Petite baisse pour le CAC 40.
Moins 0,14% à 8252 points, moins 0,24% du côté de l'Eurostoxx 50. Le secteur énergétique qui était en bas de tableau hier se reprend. Engie est la plus forte hausse à l'ouverture, plus 1,3% à 29,22€, suivi de Bouygues, Orange ou encore Eiffage. Et puis à l'inverse, les valeurs qui ont bien performé hier soufflent. LVMH est la plus forte baisse, moins 1,5% à 491 €, suivi de Accor, Saint-Gobain ou encore Hermès. Les barils de pétrole, que ce soit pour le baril américain, le WTI, et le baril de Brent, vous avez une hausse ce matin de plus de 2%, 97 $ donc pour le Brent. Du côté de l'euro-dollar, les 1,16 tiennent ce matin, 1,1669 sur le front des métaux précieux. L'once d'or est à 4733 $, et donc la bourse de Paris qui ouvre en léger recul de 0,2% à 8248 points.
Au menu de Good Morning Market.
Dans un instant, Daniel Gerino de Carlton Selection nous éclaira un petit peu sur la situation et le jour d'après sur les marchés après cette séance historique hier en Europe, avec donc un DAX à Francfort qui a pris 5% et un CAC 40 qui a pris 4,5%. Nous parlerons de valeurs, bien évidemment, comme tous les jours dans cette émission à 9h20 avec les équipes du GIG Gestion. Aujourd'hui, nous reviendrons notamment sur E.ON Orléans, sur Adidas ou encore sur Moncler. Et puis dernière partie d'émission aujourd'hui avec Christophe Boucher de ABN AMRO et Jean-Pierre Petit à partir de 9h30 qui vont nous donner un petit peu leur analyse sur la très forte volatilité des marchés. Et puis est-ce que les marchés ne vont pas un peu trop vite en besogne par rapport à cette situation en Iran, puisqu'on le voit bien, pour l'instant rien n'est joué. Mais en tout cas, les marchés ce matin tiennent avec donc une baisse de 0,15% à l'ouverture pour l'indice parisien.
Bonne émission demain.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Braque.
C'est parti pour Good Morning Market. Et donc après une séance historique hier, les indices européens font une petite pause. Moins 0,15% pour le CAC 40, moins 0,5% pour le DAX à Francfort, moins 0,3% pour l'Eurostock 50. Dans quelques minutes, nous serons avec Jean-Louis Cussac qui nous attend depuis Perceval Finance Conseil. Il nous donnera un petit peu son analyse, sa lecture par rapport à la très forte hausse hier des indices européens. Engie, Bouygues ou encore Air Liquide sont les plus fortes hausses à l'ouverture avec des gains de plus de 1% quand LVMH, Dassault Systèmes ou encore Capgemini ferme la marche. Daniel Gerino nous accompagne ce matin, le président de Carlton Sélection, économiste et actuaire. Bonjour Daniel. Bon, comment vous regardez un petit peu la situation à froid? C'est un petit peu le jour d'après, après donc cette séance historique hier sur les indices européens. Tout s'est joué à l'ouverture, hein. Vous l'avez vu hier, peu de temps après 9h, vous avez beaucoup de valeurs qui ont ouvert sur des gaps impressionnants. Est-ce que le marché ne va pas un petit peu trop vite en besogne? Comment vous analysez la situation, Daniel?
Alors bonjour Étienne, bonjour à tous. Moi, je retiens trois messages, en fait, dans ce qui s'est passé hier. Le premier message, c'est que ça a été plus un rallye de soulagement que des convictions. Hein. On a eu la meilleure séance en Europe depuis 2022, depuis début 2022. Donc, c'est quand même un phénomène extrêmement violent. On a le DAX qui a monté de 5%, le Stoxx 600 de 4%, toutes les économies qui étaient liées à l'énergie, c'est-à-dire qui ont très très peu d'énergie, comme la Corée, a monté pratiquement de 7%. Donc, en fait, on est passé d'un mode panique à un mode euphorique en l'espace de 12 heures. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Ces deux extrêmes, bah, ils n'étaient pas forcément justifiés, hein, de part et d'autre. Mais aujourd'hui, on a la conviction qu'on va avoir une petite pause. Sauf que demain, on va avoir une réunion à Islamabad qui risque de faire basculer le marché, soit vers une amélioration sensible de nouveau du marché, soit un retour à la case départ. Le marché qui a le plus compris ce qui se passait avant tout le monde, en fait, c'est le marché obligataire. Parce qu'on l'a vu sur le bond de 2 ans, on avait un taux qui s'est détendu pratiquement de 23 points de base en l'espace d'une matinée, donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Hein. Les marchés, ils ont retiré finalement sur les trois quart de hausse de taux de la BCE anticipé, ils en ont retiré un, ils n'en gardent plus que deux. Nous, on pense qu'il n'y en aura pas, que la BCE ne fera pas de hausse de taux, parce que le choc que nous avons, c'est un choc qui est récessif, c'est pas un choc qui est inflationniste. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de manière différente. Et le troisième message, c'est que, ben, en fait, il faut quand même garder à l'esprit le fait que les perturbations physiques dans le détroit d'Hormuz, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Le coût de transport, les assurances, les primes géopolitiques, tout ça, ça reste présent. Donc le pétrole qui a fortement baissé hier, qui revient aujourd'hui sur des niveaux, vous le citiez, de $97 le baril, le pétrole, lui, va rester sur des niveaux qui sont structurellement plus élevés que ce que l'on avait par le passé. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer. Alors après, la lecture que l'on fait, c'est évidemment de se dire, est-ce que ce rallye va durer ? C'est plus un rallye de soulagement qu'un rallye de conviction. Si le cessez-le-feu, il est fragile et encore mal défini, mais est durable, si ces négociations de demain à Islamabad débouchent sur une réalité de véritable cessez-le-feu et d'arriver en fin de course, finalement, à une paix durable, bah là, clairement, on va accélérer. Donc, c'est pas complètement inintéressant de commencer un peu à se positionner. Si au contraire c'est l'échec, on va revenir à la case départ.
Oui, justement, j'allais vous poser la question. Bah, oui. Voilà, après une hausse de 5%, c'est quand même pas évident de rentrer sur le marché. Hier, il y a quand même des valeurs qui ont pris 10%. C'était le cas de Safran, de ArcelorMittal. Le secteur du luxe a pris plus de 7%. On était sur des mouvements violents. Là, comment aujourd'hui vous arbitrez les portefeuilles, Daniel Gerino?
Alors, clairement, ce que l'on a fait, hein, ces derniers jours, Nous, on a shorté l'énergie, c'est-à-dire on a vendu l'énergie et on a racheté du marché, du S&P, on a racheté de la tech, on a racheté des matériaux, on a racheté un peu de conso discrétionnaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut acheter maintenant, comme vous le citiez, avec ces hausses qui sont assez importantes? Eh ben, je pense qu'il faut pas être all-in, c'est-à-dire dire, bon, allez, je mets tout sur le rouge. Il faut au contraire sélectionner un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs intéressants. Nous, on pense notamment au secteur des matériaux, au secteur de l'industrie, au secteur des mid-cap américaines, revenir un peu sur la technologie chinoise. Ça, c'est intéressant. Après, il y a des secteurs qu'il faut quand même alléger. Alors nous, on a plus qu'alléger puisqu'on l'a shorté, c'est l'énergie. Et le secteur de la défense, qui a, enfin, ces deux secteurs qui ont carrément fait leur travail sur ces deux secteurs, on est plus très, très positif. Donc, oui, il faut commencer à se repositionner. De toute façon, dans les marchés, historiquement, quand vous avez des baisses liées à des phénomènes géopolitiques, ce sont généralement des bons points d'entrée. Alors, on tremble toujours un tout petit peu parce qu'on n'atteint jamais le point bas, on n'achète jamais au plus bas, on ne vend jamais au plus haut, mais il faut commencer à positionner, se remettre sur des positions. Vous citiez tout à l'heure LVMH, LVMH c'est quand même une superbe valeur, à moins de 500 euros, moi je pense que ce sont des opportunités qui ne se représenteront pas, donc il ne faut pas hésiter à aller dessus, parce que il faut faire un choix de scénario. Le choix de scénario que nous faisons chez Carlton, c'est que les choses vont s'arranger. De toute façon, le monde peut toujours s'en sortir. Quand vous êtes pessimiste, vous finissez toujours par perdre. Quand vous êtes optimiste, vous finissez toujours par gagner. Donc, nous, on pense que vraiment, il faut commencer à se repositionner sur les marchés. Et un investissement action, c'est un investissement de long terme. Donc, ce sont des points d'entrée très intéressants. Lors de ma dernière entrevue, je vous disais, il est intéressant de s'investir à 7900 sur le CAC. Il y a quelque temps, à 8006, on nous aurait dit « vous pouvez investir à 7009 », on aurait été ravis. Aujourd'hui, il y a des opportunités, il faut les saisir. Et c'est pareil sur les taux d'intérêt. Sur les taux d'intérêt, vous avez un boulevard devant vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché price 3 hausses de taux d'intérêt qui sont purement que des effets techniques et pas du tout des effets, disons, conjoncturels. La BCE ne peut pas se permettre de monter les taux d'intérêt avec une économie qui va en Europe baisser à 0,8%. Les dernières estimations, c'est plus 1,1, mais 0,8. Donc là, on va repricer correctement les taux d'intérêt et la partie 0,3 ans va fortement progresser. Donc c'est le moment d'arbitrer ces cicaves monétaires pour aller sur des cicaves obligataires court terme, de bonne qualité. Ça, c'est le premier message qu'il faut avoir. Le deuxième message qu'il faut avoir également dans les marchés, c'est l'or. L'or, vous avez vu que la Turquie a vendu pour 20 milliards d'or au niveau de sa banque centrale pour défendre sa devise. Et là, il y a un phénomène dont on parle assez peu, c'est que la plupart des banques centrales vendent de l'or, ce qui explique que l'or recule, sauf une banque centrale qui en achète, qui saisit l'opportunité, c'est la banque centrale de Chine. Donc, vous voyez, on a un véritable tournant avec beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui se présentent. Il ne faut pas être all-in, c'est-à-dire tout mettre d'un coup, mais rentrer progressivement en sélectionnant les bons secteurs. Ce sont surtout les secteurs qui sont importants, les valeurs également, mais les secteurs, c'est très, très important. Il ne faut pas se tromper dans les secteurs. Et ces positions que vous prenez aujourd'hui, ce sont vos performances de demain. Mais il faut avoir un peu de courage et rentrer dans le marché quand vous avez d'aussi belles opportunités. On a toujours tendance à dire « Ah, j'aurais dû acheter », mais il faut acheter quand le phénomène se présente. On sait que, de toute façon, cette crise, il va falloir la résoudre. Du côté iranien comme du côté américain, les deux ont intérêt à ce que ça se résolve le plus rapidement possible.
Merci beaucoup, Daniel Gérineau, nous a accompagné ce matin, président de Carlton Selection. Merci. Vous avez cité LVMH, c'est ce matin la plus forte baisse du CAC 40, moins 2,5% à 486 euros, quand l'indice perd 0,3% à 8239 points. 9h14, tout de suite, on va faire un détour du côté de Perceval Finance Conseil. On nous attend Jean-Louis Cussac pour nous livrer également sa vision, la séance d'après. Avec hier soir un gain de 4,5% à la clôture, 8 milliards hier soir dans les carnets d'ordre au fixing. Bonjour Jean-Louis Cussac. Bon là, ça tient plutôt bien ce matin, moins 0,3% après un gain de 4,5% hier. Et pourtant, les cours du pétrole repartent de l'avant, $97 pour le baril de Brent.
Oui, bah écoutez, il y a une digestion de la situation d'hier qui était un petit peu particulière avec, encore une fois, des décalages de prix plus que des ramassages. D'ailleurs, on a vu une chose, hein, beaucoup de valeurs, notamment des valeurs secondaires, hors CAC, qui ont boosté dans la première partie de la matinée et ensuite, elles ont doucement reculé. Il n'y a pas eu, derrière, de ramassage, c'est-à-dire d'intérêts de conviction qui sont venus, là, payer des valeurs. Donc, il faut garder une très grande prudence. Moi, mon scénario, c'est que, alors je peux me tromper, hein, évidemment, ça c'est évident, le conflit intensif va reprendre. Ok, moi c'est ce que je pense, je crois, je crains. Donc, tout ce que je vais vous dire est basé là-dessus, c'est-à-dire que je n'achète pas, je ne commence pas d'acheter, mais j'entends hein, ce qu'a dit Daniel tout à l'heure. Mais attention, dans l'interprétation de ce que vous entendez, tout dépend comment on se place dans le temps, comment on se place dans sa gestion globale de ses capitaux. Voilà, ça c'est un métier. Donc moi, en tant que trader, on va dire actif, où j'arbitre énormément en ce moment, c'est-à-dire qu'est-ce que j'arbitre ? J'arbitre des options. Je travaille énormément sur les options. Alors vous allez me dire, la volatilité implicite est très élevée, donc on peut pas les acheter. Si, on peut les acheter parce que sur juin, si vous voulez, si on regarde les contrats juin, on est à 17, 18. C'est raisonnable par rapport à l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. C'est raisonnable. C'est pas complaisant, hein, c'est raisonnable. Et on peut faire des spreads, c'est-à-dire qu'on peut acheter un call et en vendre un autre, on peut acheter un put et en vendre un autre, etc. Donc, il y a beaucoup de techniques qui permettent d'amortir, si vous voulez, ce coût de volatilité implicite. Mais c'est vrai que dans ces circonstances de marché, pour moi, le passage par les options est impératif. Et je vois pas comment on peut faire. On peut pas jouer le vertical, le prix et uniquement le prix, ou alors dans une, encore une fois, perspective longue, parce que sinon on a l'impression à un moment donné d'être pris dans une machine à laver. Donc là, le marché, si vous voulez, envoie des indications de neutralité. Avec un même un biais haussier, oui, sur le plan purement technique, on est repassé au-dessus de 8100, qui était mon niveau de neutralité, mais on y est passé avec un gap, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas arriver et payer le marché comme ça, les yeux fermés. Non, pour moi, c'est pas raisonnable, ça, par contre. Donc, on se met en embuscade, il y aura des trous d'air, il y aura de nouveaux replis, je le crains. Donc voilà, on va pas se précipiter. L'idée intraday, un pur intraday, oui, alors on achète sur des replis. Moi, ce matin, j'ai payé 8240, par exemple. La zone 50-40, on l'a fait hier, on fait ce matin, dans l'esprit. Et on va essayer de faire des écarts. Pour l'instant, on est à l'instant T un petit peu à l'abri d'un trou d'air, enfin d'un violent repli, parce que les discussions vont reprendre donc demain vendredi. Enfin, elles vont démarrer vendredi, donc au Pakistan. Donc là, on a une fenêtre de tir où on peut entre guillemets s'amuser, c'est-à-dire à tenter des choses, mais avec des positions. Moi, je joue des positions extrêmement faibles et je joue des écarts importants. Voilà. Ou parfois, quand on est devant l'écran et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, oui, ok, on peut toujours faire des petits trucs, mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment de jouer des petites positions, d'investir doucement et de faire des gros écarts.
Quand vous voyez certaines valeurs hier qui ont ouvert avec des gaps, c'est-à-dire des trous de cotation, est-ce que vous trouvez que le marché est sain, hein? Safran a quand même pris 10% hier, c'est pas une petite valeur quand même, c'est plus de 100 milliards de capitalisation boursière. Le secteur du luxe a gagné près de 7%. Est-ce que là, on n'est pas un peu dans un scénario bull trap, piège?
Oh, mais... Non, personne ne se fera piéger parce que tout le monde est conscient de la situation. Si vous voulez, c'est un phénomène tout à fait normal. Vous arrivez le matin, vous avez tout qui monte, les indices, il y a des arbitrages, les acheteurs montent d'un cran, les vendeurs reculent d'un cran, et puis vous avez un gap important. C'est malheureusement, si vous voulez, la conséquence que nous sommes dans une situation très binaire, c'est-à-dire que soit ça va bien parce qu'il y a la paix, soit ça va mal parce qu'il y a la guerre. Donc, et un mot de travers fait que on part dans une direction. Donc, vous voyez, parfois je dis que c'est pas sain, mais là c'est même pas sain, c'est hyper technique, c'est tout, c'est que technique. Vous avez énormément de gestion indicielle qui sont obligés de réagir. Vous avez derrière tous les process qui sont extrêmement rapides parce que c'est de l'algo. Et donc voilà, vous avez des situations qui sont un peu absurdes parce que évidemment, d'un jour sur l'autre, rien ne justifie le fait que la société en question, bah, elle puisse valoir 10% de plus, mais c'est face à un contexte, si vous voulez, c'est pas la valeur intrinsèque de la société, c'est quel est le contexte et comment on doit réagir. Et donc, voilà, vous avez des réactions qui sont toujours extrêmement violentes, c'est la loi des marchés. On peut rien y faire. Ce qu'il faut essayer de détecter, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de détecter des ramassages, des choses où ça va plus doucement, et qu'on ait le temps de voir des retournements de situation à la hausse, tranquille, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Alors, il y en a parfois. Mais là, hier, non. Aujourd'hui, j'ai rien vu pour l'instant. Bon, il est encore un petit peu tôt. Tout ce que je vois, c'est que Vallourec, par exemple, c'est une valeur que j'aime bien. J'avais vraiment recommandé la valeur autour de 14. Elle est au plus haut, elle est ramassée, il y a des bonnes nouvelles. Ça, on se dit, sur des petits trous d'air, peut-être que Vallourec, ça sera une valeur qu'il faudra acheter à ce moment-là. Mais on va plus prendre des notes sur les valeurs qui vont nous intéresser. Si par exemple on se dit que LVMH est intéressant, donc voilà, on la met dans la liste, on met des alertes et on se dit s'il y a un trou d'air de marché, on paiera la valeur.
Merci.
Mais on est plus dans la préparation que dans l'action, je pense, actuellement.
Plus 3,9% à l'instant pour Vallourec, c'est la plus forte hausse du SBF 120, 22,80 €. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac de nous avoir accompagné ce matin. Le CAC 47 désormais 0,5%, 8 220 points. 9h21 en portefeuille tout de suite. Pour vous livrer des exemples, des convictions, des maisons de gestion qui nous accompagnent chaque jour dans cette émission. Et ce matin, c'est Usage Gestion et Arnaud Morvillet qui nous accompagnent. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Vous êtes gérant de portefeuille chez Usage Gestion et ce matin, vous allez nous parler de trois valeurs, Moncler, On et Adidas. Nous sommes dans le secteur de la consommation discrétionnaire, voire même du luxe, hein, dans le cas de Moncler. C'est un secteur qui va faire l'actualité. Vous avez notamment LVMH qui va publier ses ventes lundi, ses ventes du premier trimestre. Si on se penche sur le cas de Moncler, on est sur un titre qui résiste plutôt bien dans ce secteur du luxe.
Alors nous, c'est un titre voilà, qu'on renforce en tout cas sur ces niveaux-là, qu'on aime bien. Comme vous savez, Moncler, c'est un spécialiste des vêtements d'hiver dans l'univers du luxe. Et alors, évidemment, l'exposition au Moyen-Orient, par conséquent, il est l'une des plus faibles du secteur, même si on ne la communique pas vraiment. Voilà, on l'estime autour des 2-5%. Donc voilà, c'est quelque chose qui devrait être assez résilient dans la crise que l'on connaît actuellement au Moyen-Orient.
C'est un groupe qui s'est diversifié également. Historiquement, c'est vrai que les ventes se faisaient l'hiver, avec notamment les habits pour la neige, les doudounes, etc. Bon, maintenant, ils sortent un peu plus de collections, avec une croissance également qui est plus visible.
Exactement. Moncler tente de se diversifier. Ils ont acquis récemment une marque qui s'appelle Stone Island. Donc aujourd'hui, Moncler, c'est environ 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la marque Moncler. Stone Island a 400 millions d'euros. Et ce qui est très intéressant sur Moncler, c'est le modèle de distribution où ils sont quasiment en full, en plein direct on consumer, donc en plein retail, sans passer par le wholesale. On a plus de 80% du chiffre d'affaires qui est en retail aujourd'hui.
Donc en fait, ils distribuent en direct.
Hein. Exactement.
Ils ont totalement abandonné les intermédiaires, en quelque sorte.
Presque, il reste encore quand même plus de 10%. Mais ce canal, ce méthode de distribution permet d'avoir des marges, une des marges les plus élevées du secteur. Et c'est tout le chantier qui est à venir sur la marque Stone Island aussi pour essayer de reluer les marges de Moncler, du groupe Moncler, d'augmenter cette partie de distribution en retail direct. Aujourd'hui, Stone Island, c'est que 55% en retail. Et on sait que voilà, plus le chiffre augmente en retail, plus la marge augmente. Donc c'est important pour...
C'est Moncler. Un groupe qui est très exposé aux États-Unis. Hein. C'est vrai que face à un marché chinois qui est plus difficile, Moncler s'est tourné vers le marché américain.
Exactement. Alors, Moncler, historiquement, c'est une marque qui a cru réellement avec une clientèle asiatique. Aujourd'hui, l'Asie représente plus de 50% des chiffres d'affaires de Moncler et 30% en Europe. Et les US font 14% pour Moncler. Ce qui est une anomalie dans cet univers du luxe où on sait que le marché américain, c'est 30% du secteur du luxe. Mais Moncler tente de s'y développer plus fortement. Récemment, ils ont ouvert une boutique flagship à Aspen. Ils ont organisé un défilé de la marque Grenoble, la marque haut de gamme. Ils ont mis des moyens marketing avec des acteurs américains, Robert De Niro, Al Pacino, vraiment pour augmenter la puissance de la marque aux États-Unis et vraiment voilà, capter une plus grande partie de ce marché américain.
Le groupe va publier dans 3 semaines, ça sera le 21 avril précisément. Qu'est-ce que vous attendez de cette publication trimestrielle ?
Alors, on attend vraiment la continuité de ce qu'on a vu au second semestre de 2025. Pour mémoire, Moncler a fait parmi les meilleures croissances de chiffre d'affaires du secteur. La boîte a fait plus 7 au T4. avec une base de comparaison très forte l'année précédente, à plus 8. Donc voilà, nous, ce qu'on attend, c'est une croissance modérée, probablement un effet FX assez fort. On sera probablement du plus 7 en organique, moins 6 en forex, quelque chose comme ça. Mais voilà, le plus 7 au T1 sera évidemment parmi les best in class du secteur. Voilà, entre un peu moins, évidemment un peu moins qu'Hermès, mais voilà, ce sera pas très très long, je pense.
FX et Forex, hein, c'est sur les effets de change.
Excusez-moi.
En tout cas, le titre tient plutôt bien depuis le début de l'année, hein, puisqu'il perd à peine 2% et il gagne 5% sur un an, 53,42€, ce qui est quand même pas mal, hein, dans le secteur du luxe quand on compare à LVMH ou même Hermès, hein, qui
On est sur des creux de valorisation sur Moncler, hein, autour des 20-21 de PE. On sait très bien que, voilà, c'est un peu des niveaux planchers sur Moncler, donc c'est intéressant de rentrer sur ce titre.
Voilà pour ce titre, Moncler qui est coté à Milan. Autre valeur aujourd'hui, On Holding. Alors là, on sort du secteur du luxe. On est notamment sur le marché de la sneakers, des baskets. Et là, c'est un petit peu compliqué. On a un groupe qui a déçu ces dernières semaines.
Oui, alors voilà, On Holding, c'est la marque On Running, hein, bien connue des pratiquants de course à pied. Qui a été créé il y a plus de 15 ans, qui est vraiment une entreprise qui s'est fait connaître par des produits très techniques, notamment des semelles révolutionnaires pour l'industrie du running, et qui sort de cette phase d'hypercroissance qu'elle a connue depuis 4-5 ans. Voilà, on est passé de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires à 3 milliards d'euros l'année dernière. Et donc forcément, ces rythmes de croissance effrénés ne peuvent pas perdurer dans le temps. Il y a forcément un moment où ça ralentit. Et probablement que l'entreprise est encore un peu trop chère au début du mois de mars, autour de $50, et les perspectives de croissance de seulement 23%, j'ai envie de dire, ont probablement un peu déçu les analystes et les investisseurs, et ce qui explique une baisse du titre sur les dernières semaines. Le titre a vraiment dévissé sur les dernières semaines.
Alors c'est un groupe suisse, mais qui est coté à Wall Street.
Qui est coté à New York, exactement, qui a fait son IPO à New York il y a 5 ans.
Et aujourd'hui, quand vous regardez les niveaux de valorisation par rapport à la baisse récente, vous la trouvez attractive?
Oui, on est plutôt en train de renforcer sur ces niveaux-là. L'action est passée de $50 à $30. Voilà, il y a eu pas mal d'événements. Évidemment, la déception sur la croissance du chiffre d'affaires 2026. La guerre en Iran, évidemment, la montée du pétrole, les craintes sur le pouvoir d'achat. Et ce qui a fini de faire baisser le titre, c'est le départ surprise du CEO annoncé il y a quelques semaines, qui va être remplacé par deux cofondateurs au poste de CEO.
Et ce titre All Holding qui est donc coté à Wall Street, alors il a repris 5% hier avec les annonces
là, on est sur
l'Iran, mais on est toujours sur une baisse de plus de 30% depuis le début de l'année.
Ouais, on est sur un titre qui va se payer quasiment 20 fois les résultats cette année, peut-être 17 fois l'année prochaine avec la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration de la marge. Pour une croissance de plus de 20%, ça reste très attractif à nos yeux.
On Holding, $33 hier soir à la clôture. Et puis un dernier mot de Adidas, on revient en Europe. Titre qui est coté à Francfort. Là aussi, parcours compliqué en bourse avec des problèmes qui ont commencé il y a plusieurs mois maintenant.
Oui, hein,
en 2024-2025.
On ne va pas refaire l'histoire, mais évidemment, les droits de douane ont eu un impact important sur Adidas, qui s'en est quand même très bien tiré. L'entreprise a réussi à afficher une marge de plus de 8% l'année dernière. Donc voilà, avec un impact environ de 8% sur son résultat opérationnel lié aux droits de douane. Voilà, cette année, l'histoire est encore très compliquée. Nous, ce qu'on voit, c'est que parmi les grands équipementiers mondiaux, en tout cas, nous, on privilégie Adidas aujourd'hui, qui clairement bénéficie de la meilleure dynamique commerciale, quand on a vu le résultat de Nike, qui était très compliqué encore la semaine dernière, ou même ceux de Puma.
Les droits de douane, c'est absorbable désormais pour Adidas, ça va mieux?
Oui, ça va mieux.
C'est encore compliqué pour eux.
C'est toujours compliqué parce que voilà, c'est évidemment, on peut pas tout passer au consommateur. Donc voilà, Adidas essaie d'absorber le mieux possible ses droits de douane. Ils estiment aujourd'hui que ce sera encore environ 10% du résultat opérationnel, plus une partie aussi du forex qui sera négatif cette année. Donc voilà, le consensus attendait 2,7 milliards des débits pour 2026. L'entreprise a guidé sur 2,3 milliards. Ce qui restera quand même quasiment 9% du chiffre d'affaires. Donc voilà, pour nous, c'est quand même très très bon dans le secteur. Et ça justifie pas forcément les craintes que l'on a sur le dossier aujourd'hui.
Et puis il y a un effet sport en 2026, Coupe du Monde, ça va peut-être leur profiter aussi un petit peu.
Ouais, on espère. En tout cas, c'est le grand événement marketing et commercial pour les équipementiers sportifs. Adidas estime à 1 milliard d'euros environ. Alors c'est pas forcément additionnel, mais les ventes autour de la Coupe du Monde, c'est 1 milliard d'euros. Voilà, ce qui devrait réellement permettre à l'entreprise de dépasser les 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires si tout va bien, si la guerre évidemment ne dure pas 6 mois. Mais voilà, nous on est assez confiants sur les perspectives opérationnelles du titre. Après, l'environnement boursier est ce qu'il est, et on est sur un de-rating voilà extrêmement fort sur les multiples de Moncler qui sont sur des plus bas depuis Adidas. D'Adidas, excusez-moi, qui sont sur des plus bas depuis très longtemps. Voilà, pour nous. Voilà, on accompagne la baisse et on renforce quand il y a vraiment des trous d'air sur le titre.
136 euros hier soir, la clôture pour ce titre Adidas, un titre qui cède 18% depuis le début de l'année. Merci beaucoup Arnaud Morvillez de nous avoir accompagné ce matin. Vous êtes gérant de portefeuille chez Usage Gestion, coup de projecteur donc sur Adidas, sur Moncler et sur On Holding. Très courte pause, on se retrouve dans un instant, deuxième partie de l'émission. Nous serons avec Jean-Pierre Petit des Cahiers Verts de l'économie et Christophe Boucher, le directeur des investissements de ABN AMRO IS. Nous reviendrons bien sûr sur cette séance folle hier en Europe avec le CAC 40 qui a vécu sa meilleure séance depuis 2022, 4,5% de gains à la clôture. Le DAX à Francfort a même fait mieux, 5% au fixing. Aujourd'hui, ça se tasse un petit peu. Le DAX à Francfort perd 0,8% quand le CAC 40 cède 0,5%. Il est toujours au-delà néanmoins des 8200 points, ce CAC 40, à 8222 points. Les cours du pétrole remontent, $97 pour le baril de Brent. C'est une hausse de 3%. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Good Morning Market sur BFM Business.
Deuxième partie de Good Morning Market avec un CAC 40 qui est donc en baisse de 0,5%, 8217 points. Engie, Air Liquide et Euronext sont les plus fortes hausses ce matin. Trois valeurs qui gagnent un peu plus d'1% alors que à l'inverse, le secteur du luxe qui gagnait 7% à la clôture souffle un petit peu. Moins 2,9% pour LVMH à 484 euros. Vous avez également Hermès ou encore Kering qui cède 1,7%. 1736 euros pour Hermès, 272 euros pour Kering. Les cours du pétrole remontent donc après la pause d'hier. $97 pour le Brent, $97 également pour le WTI, le baril américain. Petite pause également pour l'once d'or qui est à $4737. Et puis sur le front du marché obligataire, on en reparlera dans un instant. Là aussi, c'était une séance historique hier avec un 10 ans français ou encore un 10 ans allemand qui ont perdu plus de 20 points de base. Et bien aujourd'hui, après cette séance de nette détente, vous avez une légère remontée. Plus 3 points de base pour le 10 ans français à 3,63 quand le Bund allemand est à 2,97. 9h33, c'est l'heure du face-à-face ce matin avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner en compagnie de Christophe Boucher, le directeur des investissements de ABN AMRO IS.
Bonjour Christophe. Étienne.
Merci également d'être présent ce matin. Bon, je vais y aller de façon peut-être un peu directe, Jean-Pierre Petit. Est-ce que c'est pas un peu une séance de bull trap là? Hier, le CAC 40 a gagné 4,5%. Hier à Wall Street, c'était la meilleure séance depuis avril 2025 et le Liberation Day. Alors qu'au final, les négociations n'ont pas encore commencé. Elles se tiendront demain. Assez peu de bateaux ont pu sortir du détroit d'Ormuz. Et puis, quand vous entendez les sociétés hier, Delta Airlines ou encore Constellation Brands qui ont publié leurs résultats, elles sont dans le flou total dans les approches sur les perspectives des prochains mois.
Oui, je pense que d'ailleurs, c'est même pas un vrai cessez-le-feu, cette espèce de pause sur laquelle on s'est mis d'accord, enfin un accord minimal pour ne plus effectuer de bombardements à haute intensité, on va dire. Voilà, probablement pour refixer les choses et probablement pour reconstituer un certain nombre de réserves. Voilà, et sinon, un cessez-le-feu, sur quelle base? Parce que déjà, entre la version iranienne et la version américaine, c'est pas la même chose. Et puis, quand on regarde les seules exigences qui ont été manifestées par une des parties, c'est-à-dire la partie iranienne, en 10 points, c'est totalement inacceptable. Sur quoi on peut se mettre d'accord en 15 jours? Même pas 15 jours, puisqu'en fait, les négociations vont commencer dans quelques jours. Ça me paraît très, très, très difficile. Et pour moi, c'est un conflit long, de toute façon. Il avait commencé d'ailleurs avant. Faut bien le dire, c'était intensifié à partir du 7 octobre 2023. Faut pas oublier la guerre des 12 jours, qui a eu lieu au mois de juin dernier. Et puis là, il y a eu une intensification extrêmement brutale le 28 février, mais là, il y a une pause, et puis ça, pour moi, ça va recommencer d'une façon ou d'une autre, puisque ce qui apparaît quand même au strict plan militaire, c'est que les proxys de l'Iran n'ont pas été complètement anéantis, ils restent là, ils conservent leur pouvoir de nuisance, le Hezbollah, puis les Houthis n'ont pas encore été très mobilisés en mer Rouge, mais ils ont quand même, ils se sont manifestés au cours des derniers jours. Voilà, les capacités balistiques, alors, elles ont été réduites, mais pas complètement. Il y a la guerre des drones se poursuit. Voilà. Donc même au plan militaire, alors au plan politique, là, faire des bilans, ça me paraît extrêmement difficile. Là, pour moi, le combat continue d'une certaine manière, mais au strict plan militaire, l'Iran a, avec tous ses proxys, encore les moyens de poursuivre le combat. Et il n'a manifesté aucune forme de volonté de réelle négociation, parce que les 10 points présentés, ils le savent très bien, sont totalement inacceptables. Voilà, notamment la mise en place de droits de péage sur le détroit d'Ormuz, le fait que les forces américaines quittent la région, c'est un truc totalement impensable. Et puis il y a Israël qui n'a pas la même position, et puis il y a les pays du Golfe aussi qui sont là et qui vont souffrir économiquement. C'est la première fois que je vois les pays du Golfe souffrir à la suite d'un choc pétrolier, d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, je vois pas comment on éviterait la récession, par exemple, pour le Qatar. Voilà. Donc en fait, voilà ce que je pense, grosso modo.
Et pourtant, hier, c'était une séance historique, Christophe Boucher, avec le CAC 40 qui a pris 4,5%, meilleure séance depuis 2022, une baisse de plus de 10% des cours du pétrole. Comment vous expliquez cette réaction très forte des différents actifs cotés ?
Il y a quand même un cap qui a été passé. Alors, c'est pas le cap le plus important, mais c'est le cap militaire. On attendait ça quand même, qui était... Dans un scénario de relâchement du stress, des tensions, c'était la première étape, hein, cesser le feu. Et puis après, il y a tout le reste qui doit venir, par la réouverture du détroit, etc. Mais ce qui s'est passé quand même dans la nuit précédente, c'est voilà une première étape, qui est le mot-clé, cesser le feu. Alors, on verra s'il est suivi, ce qui n'est pas sûr aussi. Déjà, ils ne sont pas d'accord sur le cesser le feu, concerne le Liban ou pas. Mais pour le moment, et on suit ça, on suit les frappes en live hein, pour voir si ça tient. C'est quand même ça la réalité. Il y a des annonces qui sont faites et puis ensuite, il faut les vérifier. Mais il y a quand même un cap qui est la première étape de quelque chose qui pourrait se détendre. Néanmoins, ça peut être complètement temporaire et on est loin d'un accord politique. Ça me semble même très très compliqué en l'état quand on voit les propositions. En plus, parmi les 10 propositions, il y a plusieurs versions qui circulent. Version américaine, version iranienne, plusieurs versions iraniennes. Les Américains disent ça a été rédigé sur ChatGPT, on ne sait pas d'où ça sort. Enfin, c'est aussi. On sentait que les deux parties avaient envie d'arrêter les frappes. On trouvait le prétexte. Chacun dit nous on a gagné sur le plan militaire. Honnêtement, les États-Unis ont quand même gagné militairement, politiquement. Ça semble plutôt mal orienté. C'est-à-dire que la liste des conditions de l'Iran semble des conditions inacceptables. Donc on va voir ce que donnent ces négociations. Mais je suis assez sceptique sur le fait que les négociations aboutissent rapidement.
Alors les marchés sont toujours dans l'anticipation. Pour une fois, ils n'ont pas anticipé les annonces de mardi soir. Là, hier, ils ont pris 4-5% en Europe, les indices actions européens. Qu'est-ce qu'ils anticipent aujourd'hui ? C'est quoi le prix des choses ? Comment aujourd'hui vous arrivez, en tant qu'allocateur, Christophe Boucher, à vous y retrouver face à une telle volatilité ?
Depuis le début du conflit, et puis même si les tensions remontent bien sûr à beaucoup plus longtemps, depuis le début du conflit, c'est extrêmement difficile de prendre des positions opportunistes. Pourquoi ? Parce que le marché, en tout cas du côté actions, il semble ce qu'on appelle efficient, c'est-à-dire qu'il y a une news qui arrive, si elle est jugée comme véridique ou crédible, tant que le marché s'ajuste. Mais vous pouvez quasiment pas trader, à part avoir des positions sur les dérivés qui courent pendant la nuit ou pendant les week-ends. En fait, la news arrive pendant la nuit, le marché européen s'est ajusté à l'ouverture. Puis après, il fait plus rien. Et puis après, on se dit, et c'est la séance d'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment crédible, pas crédible ? Tant que ça rend un peu, mais ça se fait... En one shot, de manière instantanée. Ce qui fait que on est tous, enfin je connais pas un allocataire qui n'est pas là en train de se dire soyons prudents, c'est difficile de faire des opérations dans ce marché-là.
Oui, parce que quand vous loupez une séance à 5%, c'est compliqué de se rattraper derrière. Donc il faut rester investi et en même temps, il faut être à l'abri également de certaines pentes de saloon.
Ouais, absolument. Donc concrètement, nous, on ne touche pas tellement à l'exposition marché parce que c'est effectivement des ports de saloon, des risques de ports de saloon. Si vous le ratez le plus 5 et vous dites oui mais je vais éviter le moins 5, mais vous êtes pas sûr qu'il arrive non plus. Donc c'est plutôt de travailler les valeurs, d'être sûr que le portefeuille est toujours diversifié, parce que malheureusement c'est difficile de faire des plans sur la comète. Alors déjà qu'en économie c'est difficile de faire des prévisions, mais en matière géopolitique c'est encore plus compliqué. Donc là, en la matière, nous on prend du risque quand il est rémunéré. Là, il y a aucune rémunération à se dire. Moi, je suis convaincu que en mai c'est fini, et puis on y va. C'est trop difficile à prendre.
Jean-Pierre Petit, quand vous échangez avec vos clients, avec des allocataires, des gérants, c'est quoi la stratégie? C'est quoi un petit peu l'état d'esprit là depuis un peu plus d'un mois?
Bah nous, elle a pas trop changé hein, depuis le. Moi, j'ai rédigé une note le lendemain, donc le 1er mars, le lendemain du début des opérations, et j'ai dit que c'était un événement sérieux, en gros, voilà, potentiellement disruptif. Et donc, l'allocation qu'on a préconisée, c'est une allocation très prudente, voilà.
Et depuis le 1er mars, vous n'avez
pas
bougé?
On a fait quelques changements sectoriels, notamment sur les minières. On avait surpondéré dans un premier temps le foot 600, ça n'a pas trop mal marché, mais on a arrêté, parce qu'on a les minières aussi, on avait shorté les minières, on est revenu dessus, enfin, mais c'est des ajustements à la marge, voilà. Mais sinon, sur l'essentiel, on a préconisé, c'est assez simple, mais enfin, quand même, ça n'a pas trop mal marché, oil and gas dans les secteurs, la défense, qui a surperformé, au moins en termes relatifs. Alors après, c'est pas forcément l'absolu, c'est du relatif. C'est pareil pour les TIPS, les obligations indexées, c'est du relatif. C'est pas par, ça veut pas dire que la classe d'actifs monte, voilà, en niveau. Alors il y a eu des loupés, par exemple, on a surpondéré l'or, ça a pas marché du tout au début. On est resté sur cette position depuis, ça marche mieux. On a pu constater que d'ailleurs l'or dans les premières phases de tensions géopolitiques souvent baisse. C'était le cas en 2022, par exemple, notamment parce que le dollar remonte, les taux réels montent, et qu'il y a évidemment, il y a un certain nombre de gérants, voire de banques centrales, qui shortent un peu les positions sur l'or, sachant qu'elle avait connu un momentum très, très, très puissant. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment, quand je regarde, par exemple, notre tableau de bord tactique, qu'on a mis en place juste au lendemain disons, les deux tiers, trois quarts des trades, comme on dit, qu'on a préconisé, se sont révélés pertinent, sauf par exemple l'or, par exemple, voilà. Sinon, on a shorté les small caps, on a shorté l'essentiel des cycliques, on a choisi les telcos dans un premier temps parce que ce sont des défensifs qui résistent bien à la montée des taux. Enfin bon, bref, on a choisi le dollar, le franc suisse qui a marché dans un premier temps, voilà. Mais sinon, dans les marchés qui ont monté, à part le pétrole, le marché norvégien, si jamais ça vous intéresse, marché action, c'est un des rares marchés actions dans le monde qui a progressé, on comprend pourquoi, évidemment, comme si ce pays avait besoin de ça, si je puis dire. Il y a des choses très injustes dans la vie, mais je passe là-dessus. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, les événements qu'on a à notre disposition, même s'il y a une étape, ne nous permettent pas de revenir franchement sur des positions, sachant qu'en plus, si je prends le principal marché d'actifs risqués de référence, qui est le SP500, on est, je crois, hier à 6782. Je rappelle qu'au maximum, on a dépassé en séance les 7000 à la fin du mois de janvier. Donc en fait, la baisse est quasi inexistante face à un choc quand même assez puissamment pour l'instant. Stagflationniste. D'ailleurs, plus stag que flationniste. Mais enfin, ça, c'est un petit point peut-être qu'on pourrait développer tout à l'heure, parce que sur l'arbitrage obligation action, ça pourrait changer, pas tout de suite, mais dans les mois à venir.
Avec une séance hier qui a été aussi mouvementée hein, sur le marché obligataire.
Ben oui, parce que c'est l'inverse de la stagflation. Ouais. La stagflation, c'est les obligations et les actions qui baissent. Quand il y a une phase de normalisation anticipée par les marchés, les positions de stagflation sont débouclées. Voilà,
En dehors du marché action, comment aujourd'hui on peut être un petit peu à l'abri en quelque sorte, Christophe Boucher?
Alors, c'est presque la caractéristique de cette phase, c'est qu'il n'y a pas de valeur refuge. Le dollar l'a été un tout petit peu, mais c'est très difficile de trouver des actifs qui ont une performance absolue positive depuis le début du conflit. Donc c'est presque la caractéristique de cette phase de tension. Il n'y a pas de valeur refuge. Et alors on peut aller sur l'énergie, effectivement, ça c'est légèrement positif, mais c'est pas non plus voilà, parce que c'est pas parce que le prix du pétrole vous permet de faire plus de marge. Il y a aussi des problèmes de chaîne d'approvisionnement.
Et ça a déjà beaucoup monté en plus.
Oui, puis ça a déjà beaucoup monté. Donc c'est très difficile d'y échapper. Ce qui est aussi, et là ça va être intéressant quand même de revenir à des choses plus fondamentales au-delà de l'énergie, c'est de suivre la saison des résultats. Alors bien sûr, elle ne va pas prendre en compte exactement ce qui s'est passé puisque on est en décalage. Hein, le conflit, c'est les 6 dernières semaines et puis les résultats sont un peu plus longs. Mais il y a quand même un paradoxe dans cette phase au-delà de l'absence de valeur refuge. C'est les analystes qui ont plutôt révisé à la hausse les bénéfices. Et donc il y a un décalage qui est alors nous qui nous pose beaucoup de questions et on essaye de comprendre pourquoi. c'est quand même que la vision des... Alors, on pourrait dire c'est de la complaisance. Les analystes ignorent ce qui se passe, savent pas ce qui se passe, et puis se disent, bah voilà, l'économie reste résiliente. Elle reste résiliente malgré tout, l'économie, parce que c'est des économies de service. On a oublié quand même, là, on s'inquiète tous parce qu'il y a des raisons de s'inquiéter, mais c'est quand même un fait stylisé que les économies, depuis 20 ans, voire 30 ans, sont moins sensibles aux chocs énergétiques. Mmh. Ça, c'est fondamental, à la fois sur la transmission à l'activité et la transmission au prix. Donc, si vous voulez, quand on avait le prix du baril en 2022 ou en 2024, qui était à ces niveaux-là, un peu en dessous, quelquefois un peu au-dessus, j'ai le sentiment qu'on se posait pas tout à fait les mêmes questions. Alors, le blocage est différent, puisque là, il y a des chaînes d'approvisionnement, des capacités de production. Mais attention aussi, les chocs énergétiques sont beaucoup moins coûteux pour l'économie que par le passé. Et c'est en cela que... Donc, premier paradoxe, hein, c'est pas de valeur refuge. Deuxième paradoxe, les analyses qui tiennent des révisions. Et le troisième paradoxe pour moi, c'est quand même que le marché obligataire et les analystes obligataires sur les attentes des banques centrales, notamment sur la zone euro, sont extrêmement pessimistes, au sens où la BCE va remonter ses taux.
Quatre fois.
Ouais, alors ça évolue aussi en fonction de...
Pas mal.
Ça évolue en fonction du scénario différent, mais
moi ça me semble... Quatre fois,
même si on se dit que la BCE a déjà fait des erreurs de politique monétaire par le passé, quel que soit le gouverneur ou la... Mais ça me paraît difficile. Et le marché price ça. Moi, ça me semble... Peut-être, il y a peut-être des choses à faire du côté obligataire. Effectivement, peut-être que les taux ont trop monté, honnêtement.
D'accord avec ça. Je pense que c'est ce que je disais juste préalablement. Par rapport à 2022, là, c'était une stagflation. Le marché obligataire a baissé jusqu'à l'automne 2023. Enfin, ça fait 20 mois de baisse. Voilà. Alors que le marché action, lui, il a baissé pendant 9 mois, du 1er janvier au 30 septembre 2022, de 25%, ce qui d'ailleurs n'était pas énorme. Alors qu'on avait le plus puissant choc inflationniste depuis 40 ans et le plus fort resserrement monétaire depuis 40 ans. Donc, on aurait pu se dire que ça allait être pire. Mais ce qu'a marqué en 2022, c'est que la résilience de l'économie américaine, qui a fait un 9 ou 2, je crois, en 2022, alors que la majorité du consensus prévoyait quelque chose de beaucoup plus bas. Et donc, ça a permis au BPA de résister et qu'au total de faire de moins 25. Donc, c'était plus inflationniste que stag, si je puis dire. Il faut dire qu'on démarrait l'année 2022 avec déjà le premier choc d'offres post-Covid, avec les goulots d'étranglement, il faut le savoir. L'inflation américaine, si vous lissez un peu, était à plus de 7 déjà. Et donc, il y avait un marché de l'emploi beaucoup plus tendu. On venait d'une super reprise en 2021, plus de 5% de croissance. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration. Hein. On a plus des configurations stag, hein, avec les droits de douane qui sont toujours là. Enfin, l'ambiance était quand même, en début d'année, avant même ces événements, n'était pas extraordinaire sur la croissance. Alors qu'au début de 2022, c'était quand même plus favorable. On avait une dynamique quand même plus forte et plus de tensions inflationnistes, qui se sont d'ailleurs manifestées. Hein. Et la Fed a attendu l'été 2023 pour stopper son processus de réduction. Donc le marché obligé. Là, je pense que si le conflit se prolonge à peu près comme il est depuis le 28 février, on va dire ça, hein, on va prendre cette hypothèse, je pense qu'à un moment donné, le marché obligataire va recommencer à surperformer le marché actions. Voilà. En espérance de rentabilité ajustée du risque, parce que les obligations sont quand même moins risquées que les actions. Voilà. Donc voilà ce qui peut se passer. Surtout si on commence à anticiper un ralentissement plus fort. Voilà.
Et dans ce cas-là, on aurait des obligations qui verraient leur rendement progresser.
Bah, leur rendement, leur valeur, plus oui. Leur performance, leur rentabilité globale progresser. C'est ce qui se passe quand il y a des chocs pétroliers, des chocs d'offres pétroliers, par exemple, première guerre du Golfe. Il faut s'en souvenir, hein, l'invasion du Koweït par Saddam Hussein le 2 août 90. Donc, le marché réagit mal, le marché obligataire et le marché action réagit mal pendant quelques mois. Puis au bout d'un moment, le marché réalise qu'au final, ça va se terminer par une récession. Donc les obligues, le rendement des obligues baisse et donc la valeur des obligations monte et elles surperforment les actions. On a la même chose en 2008. Rappelez-vous, 2008, le premier semestre 2008, les actions et les obligations baissent les deux parce qu'il y a aussi un choc pétrolier, alors qui n'est pas un choc géopolitique, mais un choc, disons, c'est une bulle matière première, on va résumer les choses. On monte à 147 dollars le 8 juillet 2008, puis finalement le marché réalise que ça, tout ça n'est pas soutenable, l'économie américaine va baisser. En plus, par-dessus le marché, il y a la crise bancaire et financière, Lehman Brothers. Alors là, c'est un super... C'est un super rallye obligataire qui va durer pendant 6 mois, alors que les actions continuent de baisser jusqu'au 9 mars 2009. Voilà. Donc, sur l'arbitrage obligation-action, on va pas... Il va falloir, à un moment donné, trancher. Voilà.
Et sur les résultats d'entreprise, vous parliez des analystes qui avaient revu à la hausse leurs prévisions, notamment aux États-Unis, tirés par l'IA. Sur la partie européenne, comment vous regardez les résultats d'entreprise? Ça va commencer la semaine prochaine. On aura notamment LVMH ou encore ASML, Christophe Boucher.
Oui, on est assez attentif à ce qui se passe sur le marché européen, mais pas tellement en termes de... on remonte l'exposition, on la diminue, parce que quand même l'économie européenne était en accélération cyclique. Enfin, c'était le discours avant, en tout cas sur janvier, février, puis même un peu avant. Donc, alors que l'économie américaine était plutôt en ralentissement cyclique. Mais au sein de cette réaccélération cyclique, bon, le choc énergétique vient quand même pénaliser ceci. Il y avait les valeurs bancaires, par exemple, qui surperformaient très fortement. Nous, même avant le conflit, on sentait que c'était en train de s'émousser. Et on va être surtout attentif, voilà, selon les résultats, à la rotation sectorielle qui va s'opérer au sein du marché européen et avec la grande question des valeurs bancaires.
Avec le crédit privé, notamment, qui inquiète en ce moment sur l'exposition des banques à cette classe d'actifs. Ça sera bien sûr l'une des grandes questions lors des résultats trimestriels.
Oui, alors, il y a ça, mais plus généralement, la capacité à transformer en marge les évolutions de taux récentes du secteur bancaire. Quand même, sur le crédit privé, effectivement, bon, ça surtout... secoué aux États-Unis parce que les portefeuilles étaient très peu diversifiés, concentrés sur du logiciel, de l'IT qui ont souffert. Bon, après, il n'y a quand même pas, semble-t-il, tant de leviers que ça. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on surveille. C'est-à-dire, les banques sont pas forcément exposées à avoir prêté de l'argent pour faire du levier dans ce crédit privé ou ces actifs privés. Donc on surveille, mais c'est plus général que ça. C'est la capacité à réaliser des marges. Et le scénario était plutôt favorable jusqu'ici pour les bancaires sur des fondamentaux macro. C'est-à-dire les taux étaient pas si bas que ça. D'ailleurs, on pouvait se plaindre du fait que la BCE puisse aller un peu plus loin dans la baisse des taux. Donc des marges d'intérêt relativement confortables avec une accélération cyclique. Bon, c'est typiquement une phase qui est favorable aux bancaires. Là, c'est plutôt ce qui se pose aujourd'hui sur les valeurs bancaires.
Les valeurs bancaires qui ont cartonné l'an passé, Jean-Pierre Petit, l'Eurostock 50 affichait l'une des plus belles performances sectorielles. Vous êtes inquiet, vous, sur l'exposition des banques au crédit privé ou non? C'est un risque qui est gérable. Pour rappel, c'est environ 2000 milliards d'encours.
Oui, mais même, de toute façon, même avant la guerre, nous, on était passé neutre sur les bancaires alors qu'on l'avait surpondéré l'an dernier. Il y avait l'argument de la marge nette d'intérêt, effectivement, l'argument que les banques sont aussi des valeurs cycliques. Voilà, donc, et puis les attentes des analystes étaient quand même très optimistes. Il y avait eu un super momentum. Donc, de toute façon, nous, on était plutôt sur une position de neutralité. Voilà, sur les valeurs bancaires. Après, il y a pas que les secteurs aussi sur lesquels faut jouer. Il y a les styles d'investissement. Donc small caps, alors même si les small caps sont pas chers, sont même assez massacrés en termes de valorisation. Je pense que quand il y a des inquiétudes sur les conditions financières ou sur la conjoncture domestique, faut plutôt rester à l'écart. Il y a le style low volatilité, qui, à mon avis, quand on est dans un processus de perturbation exogène, faut mieux jouer ces styles d'investissement. Puis il y a le style quality, comme on dit souvent, c'est-à-dire les valeurs jouées. Alors là, c'est des paniers de valeurs, c'est pas des secteurs, c'est pas des pays, c'est des valeurs à faible niveau de dette, à fort cash flow, enfin des boîtes assez régulières. Alors tout dépend de la qualité des paniers là, parce que là il y a pas de.
Oh, puis il y a des biais sectoriels.
Il y a des biais sectoriels, alors faut faire gaffe à ce qu'on met dedans. Enfin, c'est un petit peu plus flou, mais disons que si j'étais gérant d'actifs, là aujourd'hui, je procéderais à des ajustements techniques qui ne remettraient pas en cause la vision générale prudente qu'on a depuis presque 6 semaines, mais quelques ajustements techniques en fonction de la valorisation relative. Par exemple, sur l'arbitrage cyclique défensive, bon bah les défensives ont évidemment bien surperformé, et à un moment elles deviennent chères, quoi. Voilà. Et donc faut arrêter un petit peu, faut revenir plutôt vers une position de neutralité ou en fonction du momentum. Quand il y a un momentum très très fort, on parlait d'oil and gas tout à l'heure, bon bah faut peut-être se calmer. Voilà.
Et à l'inverse, les secteurs qui vous donnent envie aujourd'hui?
Bah c'est ce que j'ai dit déjà. Alors en termes stratégiques, moi je reste favorable aux valeurs de défense, même si alors effectivement elles ont bien surperformé en relatif. Là, pour l'instant, je reste sur des valeurs, sur les secteurs oil and gas. Voilà. Et je reste à l'écart de tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Je surpondère aussi, alors en termes de pays, vous ne m'avez pas posé la question, mais il y a quand même des questions là-dessus. Il faut rester à l'écart de la plupart des marchés émergents. Il faut surpondérer le marché américain qui est plus défensif et qui va moins souffrir. On le sait très bien, ils l'ont montré d'ailleurs en 2022, 2023, 2024, qui va moins souffrir que l'Europe de ce choc. Plus évidemment la partie tech, voilà, les marges très élevées, etc. Donc il faut plutôt revenir sur le marché américain. Voilà.
Le mot de la fin, Christophe Boucher.
Merci.
Non, mais par rapport à ce qui vient d'être dit sur les zones géographiques, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des zones géographiques. Le S&P 500 est stable là depuis le début de l'année.
Ouais, alors nous sur les émergents, on a quand même une vision un peu différente parce que on en a beaucoup profité nous l'année dernière, puis on restait convaincus. La guerre est venue un peu perturber, mais il n'y a pas eu de massacre non plus de la classe d'actifs qui est quand même historiquement peu chère. Encore aujourd'hui et même avant.
La Corée du Sud qui avait un petit peu explosé l'an dernier.
Ouais, mais la Corée est quand même très dépendante, donc c'est un effet, très spécifique quand même au sein des émergents. Donc nous, on reste quand même assez favorable sur les émergents, tout en évitant de se faire tarter, comme on dit, à très court terme sur des développements géopolitiques.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Christophe Boucher pour ABN AMRO IS et Jean-Pierre Petit pour les cahiers verts de l'économie. Le CAC 47, donc 0,5% après sa séance historique d'hier. C'était la meilleure séance depuis 2022, plus 4,5% à la clôture. Nous sommes ce matin à 8221 points. Prudence, bien sûr, avant le début des négociations demain entre l'Iran et les États-Unis. Preuve en est, le baril de pétrole est à 98 $. 9h57, dans 3 minutes, il sera 10h, vous retrouverez Raphaël Legendre et ses experts.
Oui, bonjour Étienne. Alors la meilleure séance, effectivement, sur le CAC
de Good Morning Market sur BFM Business.
La meilleure séance hier sur le CAC 40. Vous le disiez, Étienne, depuis 4 ans, est-ce bien raisonnable? Alors que, Israël continue de bombarder le sud Liban. 182 morts et 800 blessés cette nuit. La situation reste très fragile. La trêve est fragile. C'est J.D. Vance qui va être en charge des négociations, qui le dit lui-même. On va continuer de décrypter toutes les conséquences économiques de la crise en Iran avec mes experts du jour, notamment le problème que poserait le péage dans le détroit d'Ormuz. Quelles conséquences sur les routes maritimes? On va voir ensemble les conséquences pour le pouvoir d'achat des Français. La pire année depuis 2013, nous dit l'OFCE dans ses dernières prévisions. Et puis la question du carburant, bien sûr. Sébastien Lecornu qui met la pression pour que les prix à la pompe baissent dans les prochains jours. Est-ce qu'il n'est pas allé un peu vite en besogne, le Premier ministre? Le carburant peut-il baisser aussi rapidement? Voilà pour le programme du jour.
Voilà le programme des experts. 10h, 11h, 11h tout pour investir. Et puis bien sûr, la séance américaine, c'est à suivre cet après-midi dans BFM Bourse avec Antoine Larigauderi à partir de 15h30. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.